Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour, c'est vous docteur Lionel Coudron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin et yoga thérapeute, vous avez fondé d'ailleurs en 1993 l'Institut de Yoga Thérapie. C'est quoi cet institut d'abord, on y fait quoi, c'est pour qui, pour les professionnels ou est-ce que moi je peux venir en tant que patiente?
C'est essentiellement pour permettre la formation de professionnels, à la fois des professeurs de yoga qui veulent se former en yoga thérapie et devenir de yoga thérapeute, et pour les professionnels de santé, ça va donc regrouper aussi bien les infirmiers, les kinés, les psychothérapeutes, les médecins, voire même des dentistes, des pharmaciens qui ont besoin d'outils complémentaires dans leur pratique.
Alors on va essayer de bien définir les choses. Quelle est la différence entre le yoga thérapie et du yoga classique, des cours de yoga? On imagine quand même qu'il y a une pratique un peu plus médicale de votre côté.
Exactement. En yoga thérapie, ça a un objectif précis, c'est de prendre en charge une personne qui a une souffrance bien précise, qu'elle soit d'ordre psychologique ou plus physique, plus médicale, et l'amener de façon individuelle à améliorer ses symptômes. C'est une prise en charge qui va pouvoir se faire aussi bien pour permettre de guérir la personne, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la prévention, mais ça peut être aussi également un accompagnement. Ça peut être un soin complémentaire, comme ça peut être également traiter profondément et durablement la pathologie qu'on aura prise en charge.
Alors d'où vient le terme yoga-thérapie, historiquement parlant? Je sais pas, j'imagine que ce n'est pas vous qui l'avez inventé, ça remonte peut-être à j'imagine, des milliers d'années, je ne sais pas.
Alors non, le terme yoga-thérapie en lui-même, il est plus récent. On peut dire en tout cas que l'application du yoga à la thérapie remonte à peu près un siècle.
Quand même, ouais.
Voilà, ça a été fait effectivement dans les années 1920 en Inde, où il y a eu les premières études scientifiques qui ont été faites à propos du yoga, voir quels étaient les impacts au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, en fonction des moyens dont on disposait à l'époque. Et puis, quelles étaient les applications? Et maintenant, depuis un siècle, on a bien avancé, puisqu'il y a eu des milliers d'études qui ont été faites pour valider ce qu'est la yoga-thérapie et ses applications à la santé. Et on retrouve la création de ce terme, en fait, en France, dans les années 1970. Et on le retrouve également en Inde, appliqué à peu près à la même période. Donc, le terme yoga-thérapie est quelque chose de plus récent.
D'accord.
Est-ce que c'est une alternative à la méditation, par exemple, qui est un peu le vent en poupe? Et d'ailleurs, peut-être que l'un n'empêche pas l'autre. C'est peut-être pas des concurrents, forcément, méditation et yoga-thérapie.
Alors, non seulement ce ne sont pas des concurrents, mais le yoga, il y a 2000 ans, et c'est très peu connu, ce n'était que de la méditation.
Ah oui, d'accord.
Il y a 2000 ans, il n'y avait que le fait de s'asseoir. Et vous avez un ouvrage de référence qui s'appelle les Yoga Sutras. Ça veut dire le fil conducteur du yoga, ce qui relie les différents éléments du yoga. Eh bien, dans ces aphorismes, c'est un petit livret, hein, c'est, on va dire, le yoga pour les nuls de l'époque. Ça fait quoi, 10 pages? Et on explique uniquement la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? À qui est-ce que c'est destiné? C'est vraiment, donc, il y a 2000 ans, que de la méditation. Et au fil des siècles, on s'est rendu compte que pour méditer immobile, c'était peut-être mieux de préparer le corps.
Et, oui.
Et on le sait tous, on vit dans notre corps. Et la méditation, ce n'est pas qu'un travail de l'esprit, c'est aussi un travail du corps. La posture est importante. La façon dont on ressent les choses dans son corps va déterminer ce que l'on va obtenir avec cette méditation.
Alors les postures de yoga, moi j'en vois parfois sur internet, il y a des trucs quand même hyper difficiles, j'ai l'impression. Est-ce que tout le monde peut pratiquer la yoga thérapie? Est-ce que, je ne sais pas, si je suis très âgée, je veux dire, ou trop malade, est-ce que ça peut être pour moi? Est-ce que ça peut être même pour les enfants peut-être?
Alors effectivement, on a l'image d'un yoga qui peut être acrobatique. Ouais. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des postures extrêmement difficiles. Mais on réserve les postures extrêmement difficiles pour les gens extrêmement entraînés et qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin. Et maintenant, la yoga thérapie, à la différence du yoga, c'est qu'elle s'adapte. C'est-à-dire qu'on a une centaine d'outils différents et en fonction de la personne, on va pouvoir adapter. Et le béaba de la yoga thérapie ou du yoga thérapeute, c'est de trouver le plus petit outil pour le plus grand effet. Donc on va essayer d'adapter au mieux.
Est-ce que le yoga et les exercices qui vont avec, hein, qu'on va détailler juste après, est-ce que ça peut être considéré comme un sport ou tout du moins comme une activité physique? Parce que dit comme ça, on a l'impression que c'est un peu plan-plan.
Alors, c'est vraiment une activité physique, pleinement, et justement, encore une fois, on va pouvoir l'adapter à n'importe quel âge, à n'importe quel handicap, à n'importe quelle pathologie.
Il n'y a aucune contre-indication?
Il n'y a pas de contre-indication à la yoga-thérapie. Il y a des contre-indications à des outils ou à des exercices de yoga. On ne va pas faire la même chose si on a une sciatique aiguë, mais on peut faire des choses, même dans une sciatique aiguë, que si l'on a une anxiété que si l'on a une migraine, que si l'on a une lombalgie, que si l'on a des troubles respiratoires, etc. etc. Donc on va adapter, mais il n'y a pas de contre-indication du yoga.
Est-ce qu'on peut se lancer seul dans la yoga thérapie? Je veux dire, il existe des livres sur le sujet, des vidéos sur Internet peut-être. Est-ce que si vraiment je veux l'utiliser dans cette idée de soins, vaut mieux quand même utiliser un thérapeute pour faire de la yoga thérapie ou on peut se lancer tout seul?
Bien sûr qu'on peut se lancer tout seul. Mais c'est toujours la même chose. Des fois, pour identifier le problème, on a besoin de quelqu'un d'autre pour avoir un recul. D'abord, je voudrais dire une chose qui est très importante, c'est que le yoga thérapeute s'inscrit dans un système de soins. Il vient en même temps que toute l'équipe médicale, qu'avec le médecin, qu'avec le psychothérapeute, qu'avec le kinésithérapeute, etc. C'est-à-dire, il vient dans un objectif bien précis, qui est justement celui d'apporter un peu plus de sérénité aux patients, et l'on a constaté, et l'on sait, que cette sérénité, elle se développe avec des outils de posture, des exercices de l'activité physique, elle se développe également avec des exercices respiratoires, avec des exercices de relaxation, mais aussi de prendre conscience de ce qui se passe, et c'est là que le yoga thérapeute intervient. Une fois que le diagnostic médical est fait, on peut identifier précisément comment la personne a réagi face à son trouble et l'aider à dépasser ce trouble.
Docteur Caudron, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, nous allons continuer cette émission consacrée à la yoga-thérapie. Aujourd'hui, on vous propose une initiation, en quelque sorte, à cette forme de soin qui allie le yoga, bien sûr, à une prise en charge globale de la santé. La yoga-thérapie, c'est utile notamment dans les états dépressifs ou les lombalgies, le mal de dos chronique. On va vous expliquer comment tout ça fonctionne. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être. Notre invité est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Lionel Caudron. Vous êtes médecin et fondateur de l'Institut de Yoga-Thérapie. Vous êtes également l'auteur du livre « Le vrai nom du bonheur et la sérénité » qui est paru chez Kéréo Éditions. Alors, pour les personnels soignants ou les paramédicaux qui nous écoutent et qui voudraient se former à cette pratique, il faut avoir déjà fait du yoga ou est-ce que hop, je peux me lancer si j'ai juste ce désir-là?
Non, on a pour remplir ce dossier, pour pouvoir postuler, pour faire cette formation, il faut au minimum 2 ans de pratique. Il faut au moins connaître le yoga, il faut l'avoir expérimenté sur soi, il faut en connaître le vocabulaire de base. Et puis à partir de là, nous, évidemment, on va les amener à se perfectionner.
Alors on va venir du côté du patient, on va voir quelques bonnes indications pour lesquelles la yoga-thérapie pourrait être bénéfique. Alors on va d'abord prendre les mots de l'esprit. Peut-être vous avez écrit un livre « Yoga-thérapie, soigner la dépression ». Est-ce que ce n'est pas un peu fort de café d'annoncer ça? Est-ce que ça veut dire qu'on peut remplacer la yoga-thérapie, par les antidépresseurs?
Alors,
L'inverse plutôt.
Oui, mais en même temps, ça va être dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore une fois une coordination, une collaboration. On sait que l'on ne guérit pas une dépression uniquement avec des antidépresseurs, il faut une prise en charge globale. L'intérêt du yoga, c'est de prendre, et de la yoga-thérapie, c'est de faire une prise en charge globale. C'est-à-dire aussi bien d'analyser les pensées, et dans la yoga-thérapie, il y a des éléments de thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Donc c'est très important. Mais c'est inclus depuis très longtemps dans le yoga quand on fait des observations de soi. Quand on en méditation, on parle du body scan. C'est le balayage corporel. C'est référencé dans ce petit livre dont je parlais tout à l'heure, les Yoga Sutras. Observer ce qui se passe dans son corps. Mais observer ce qui se passe dans son corps, c'est ressentir les sensations, les émotions. Et les émotions, c'est le corps. Les émotions, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. La boule à la gorge. La dépression, c'est quoi? C'est une immense fatigue, un corps triste, un corps lourd, une pesanteur sur les épaules, des pensées négatives. Donc ça se traduit par le corps et par les pensées. Et bien ça va se modifier. Quand on sort d'une séquence qui va être spécifiquement adaptée pour la personne dépressive, parce qu'on n'est pas dans les mêmes registres si on a une personne qui est déprimée depuis longtemps et lourdement, voire mélancolique, que si on a un passage transitoire à vide. Ouais. Mais quand on a identifié tout cela, eh bien on se rend compte qu'avec une séance de 10 minutes, 15 minutes, les pensées douloureuses, source de pénibilité dans le corps vont diminuer, vont disparaître.
Donc vous les améliorez clairement, les patients
dépressifs. Et on les améliore clairement.
Est-ce que dans les hôpitaux, par exemple, dans les cliniques, on a enfin réalisé, parce qu'en plus il y a des preuves scientifiques, vous le disiez tout à l'heure, l'intérêt de la yoga-thérapie, est-ce que vous êtes déjà présent, vous ou d'autres structures, dans les hôpitaux avec la yoga-thérapie?
Alors depuis 10 ans, de plus en plus. Ça a été introduit d'abord à l'hôpital d'Aubonne, puis maintenant de Pontoise, par le docteur Borel, dans une séquence de yoga-thérapie précisément, c'est-à-dire qu'il y a des ordonnances yoga-thérapeutes dans un hôpital public. Et puis nous-mêmes, on est responsable de l'introduction de la yoga-thérapie dans un groupe de cliniques, qui n'est pas des moindres, c'est le groupe Clinéa, donc c'est des centaines de cliniques. Et actuellement, il y a 4 cliniques qui pratiquent la yoga-thérapie. Et là, la particularité, c'est que c'est de la yoga-thérapie au lit du patient.
Ah oui.
Dans des indications multiples, ça peut être les troubles respiratoires, les suites chirurgicales, l'accompagnement en chimiothérapie. Il y a vraiment une indication qui est très très large. Donc oui, les institutions sont intéressées de plus en plus parce qu'elles en voient le bénéfice.
Est-ce que du côté des problèmes physiques, on peut améliorer certaines pathologies? Si on prend la lombalgie qui pourrit le quotidien de nombreux Français, est-ce que vous proposez des exercices particuliers? Et au bout de combien de temps on peut voir une amélioration?
Alors ça, c'est vraiment très facile, je dirais, pour le yoga-thérapeute. La lombalgie chronique commune, c'est vraiment très facile. On en connaît les raisons, quoi qu'on pense, puisse en penser. Il y a à peu près une dizaine, douzaine d'éléments précis, mécaniques, psychologiques, qui entretiennent une lombalgie chronique. Et à chacun des points, la yoga-thérapie va intervenir. Et là, les résultats sont extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'en moins de 6 semaines, on obtient une rémission bien souvent.
Ah oui, ils n'ont plus mal.
Ah oui, véritablement.
Et ils n'ont plus besoin de médicaments?
Ah non, plus du tout. Et c'est ça qui est assez étonnant. Alors là, vous avez parlé de la lombalgie chronique, mais on pourrait parler de la douleur chronique d'une façon générale. Et la yoga-thérapie est une excellente indication.
Ça fonctionne, il y a des preuves sur la douleur vraiment scientifiques. Quoi.
Du quotidien, vraiment du quotidien.
Pour les lombalgiques qui nous écoutent et que j'y suis sûre, hein, sont tentés par cette approche-là pour soulager leur douleur, c'est pris en charge si je veux faire de la yoga-thérapie ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des moyens de se faire prendre en charge d'une façon ou d'une autre?
Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de référencement du yoga-thérapeute dans le système de soins français remboursé par la Sécurité sociale. En revanche, certaines mutuelles peuvent prendre en charge la yoga-thérapie dans le cadre de handicap. Mais pour ça, il faut que la personne ait déjà un handicap à 20%. Mais néanmoins, déjà, il y a des reconnaissances de la part de certaines mutuelles. Donc aujourd'hui, non, ce n'est pas pris en charge par le système de soins, sauf si c'est évidemment dans le cadre d'une institution. Dans quel cas, effectivement, ça se produit. Mais sinon, effectivement, c'est à la charge du patient.
Très bien, docteur Caudron, ne bougez pas. On va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre cette découverte de la yoga-thérapie. On va passer justement à des choses encore plus pratiques, vous expliquer un peu plus en détail quels sont les exercices proposés en fonction des pathologies et comment la respiration aussi joue un rôle très important. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et on vous fait tout découvrir sur la yoga-thérapie avec notre invité aujourd'hui, docteur Lionel Caudron. Vous êtes donc médecin, le fondateur de l'Institut de yoga-thérapie. On a vu quelques pathologies juste avant pour lesquelles la yoga-thérapie peut s'avérer très utile. Je crois savoir que certaines pathologies respiratoires même peuvent en tirer des bénéfices. Expliquez-nous.
Tout à fait. Dans les troubles respiratoires, il y a plusieurs éléments qui vont intervenir. Tout d'abord, rappelons quand même qu'une pathologie respiratoire est très anxiogène et que souvent elle va s'auto-aggraver. Mais le yoga, la yoga-thérapie, c'est quoi? Ce sont des postures. Donc en travaillant la posture, en permettant de lutter contre justement les déformations qu'on va souvent voir accompagner un trouble respiratoire, on va déjà améliorer l'amplitude respiratoire. Le deuxième point, c'est qu'il y a des éléments plus spécifiques avec la pratique de la yoga-thérapie qui vont consister à améliorer le drainage pulmonaire. Donc on va avoir une bonne indication, par exemple, dans ce qu'on appelle les BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Et en même temps, on va aussi agir sur encore un autre élément qui est le déconditionnement, l'effort. Parce que quand on a un trouble respiratoire, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on bouge, on est essoufflé. Ouais. Donc dès que je m'essouffle, j'arrête de bouger. Et moi, je vais bouger, plus vite je vais m'essouffler. Eh bien, on va casser ce cercle vicieux.
Vous les remettez en mouvement, quoi, en plus, c'est
ça.
On
les remet en mouvement. On va lutter contre le déconditionnement, l'effort. Et puis, on va aussi jouer sur une autre chose qui est importante, c'est la qualité de vie, la qualité de confort. Et dans les troubles respiratoires, eh bien, il y a plein d'éléments qui sont perturbés. Le sommeil est perturbé, la fatigue apparaît, le manque d'envie de faire les choses. Je l'ai dit, on réduit notre périmètre de marche. Donc, tout ça, ça va réduire progressivement les possibilités du patient et on va casser ce cercle vicieux. On va créer un cercle vertueux.
Et du coup, on comprend que la respiration, elle prend une place centrale dans la yoga-thérapie, en tout cas dans les exercices que vous proposez. Et justement, quel type d'exercice vous allez proposer sur le plan respiratoire? Est-ce qu'il y a des choses toutes simples qu'ils peuvent faire sans pour autant que ce paraisse compliqué? Est-ce que c'est un peu abstrait quand on entend exercice respiratoire? On a du mal des fois.
Oui, et c'est ça que j'aime bien avec la yoga-thérapie, c'est que c'est concret. On ne se contente pas de proposer de façon très, je dirais, spirituelle des solutions, c'est qu'on les applique. Dans la respiration, il y a deux volets. D'abord, la rééducation respiratoire proprement dite, si je puis dire. Mais tous les mouvements vont être synchronisés au souffle. C'est fait la grande différence avec d'autres méthodes. Donc, on va traiter les capacités respiratoires, ouvrir les épaules, par exemple, en luttant contre les rétractions des pectoraux.
Je me relève, vous dites ça, oui. J'étais tout avachi, je me redresse.
Et voilà. Moi aussi, en même temps.
Et je respire mieux, c'est vrai.
Donc, on va on va jouer sur l'amplitude. Les côtes, c'est comme un éventail. Soit ça s'ouvre, soit ça se referme. Eh bien, on va permettre une ouverture maximale et une fermeture maximale. Donc, on augmente l'amplitude. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Là où la respiration nous réserve la plus grande surprise et le plus d'intérêt, c'est que lorsque je ralentis ma fréquence respiratoire, je gère mes émotions. Et alors là, ça ouvre la porte de toutes les autres indications, des troubles émotionnels, des troubles anxieux, des troubles hostiles, colère, etc. Mais aussi de la dépression, parce que la personne dépressive, elle se tasse sur elle-même, elle ne respire plus, etc. Donc, on a un champ d'application qui s'ouvre à nous qui est énorme.
Pour terminer, justement, si vous voulez plus d'informations sur l'application de la yoga-thérapie pour traiter les troubles respiratoires, vous avez écrit un bouquin sur le sujet, Yoga-thérapie, traiter les troubles respiratoires, qui est paru chez Odile Jacob. Alors, je vais prendre un autre exemple. Vous dites aussi que la yoga-thérapie, ça peut être utile dans certains troubles métaboliques, lesquels en particulier, puis expliquez-nous peut-être ce qu'on propose en termes d'exercice à ces gens-là.
Mais, par exemple, alors, les troubles métaboliques, c'est un ensemble de troubles qui associent des troubles aussi bien comme le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, ce qu'on peut appeler le syndrome X ou métabolique. Mais on sait pertinemment, les études ont été multiples pour montrer que l'activité physique en premier lieu est efficace dans le diabète.
Comme un traitement sait, à part entière.
C'est devrait être sur l'ordonnance du médecin. Et je rappelle que les médecins ont d'ailleurs maintenant l'autorisation de prescrire de l'activité physique.
C'est vrai.
Depuis quoi? 2 ans, c'est ça?
Oui, 2-3 ans,
ouais,
je crois.
2-3 ans. Donc, l'activité physique. Mais on sait aussi que l'aspect émotionnel, et un des premiers à avoir décrit le diabète, Willis, au 19e siècle, a montré qu'il y avait un rapport entre les émotions et le diabète. Donc, le fait de jouer sur l'anxiété, ça joue aussi également. Donc, l'activité physique plus l'anxiété, rien que ça, ce sont déjà des éléments qui traitent les troubles métaboliques.
Alors pour terminer, l'année qu'on vient de traverser a été source de stress pour nombre de Français. Certains d'ailleurs n'arrivent pas à se dire qu'ils vont pouvoir vivre presque comme avant, n'arrivent pas justement à profiter de cette vie qui est en train de s'ouvrir à nouveau devant nous. Est-ce que vous pensez que la yoga-thérapie, elle peut être une aide pour eux, pour, je ne sais pas, remobiliser des ressources intérieures qu'ils ont l'impression d'avoir vu disparaître comme ça depuis un an ?
Absolument. Alors, on va avoir l'impression, au bout du compte, que la yoga-thérapie peut tout faire. Non, elle ne peut pas tout faire, mais elle peut jouer sur l'élément fondamental qui est l'état d'esprit dans lequel je suis, l'émotion dans laquelle je suis, pour, comme on le disait, apporter plus de sérénité. Donc oui, on agit sur ces éléments-là. La yoga-thérapie est une bonne indication de ce qu'on appelle les chocs émotionnels, les états de stress post-traumatique. Parce que l'état de stress post-traumatique, c'est un état de figement dans le corps. Mais quand on remobilise, et le yoga, vous êtes d'accord avec moi, souvent c'est connu pour la souplesse.
Bien sûr.
Mais la souplesse, c'est surtout la fluidité que ça va amener dans le corps. Et bien quand on gère ce figement, on se libère à partir du corps de l'état de stress qui est ancré dans ce corps. Et on retrouve cette liberté. Donc on tourne une page, on ne l'oublie pas, mais on a une relation différente avec son passé.
Merci beaucoup Dr Coudron d'avoir répondu à nos questions et pour cet éclairage autour de la yoga-thérapie et de ses nombreux bénéfices, on l'a compris, pour notre santé physique et mentale. Merci encore docteur.